Dupin sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le premier dimanche de l'Avent. Comme certains parlent du temple, Jésus déclare :
des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous contemplez. Tout sera détruit.
Alors il s'interroge en lui disant :
Maître, quand est-ce que ce sera ? Et quel est le signe que cela va arriver ?
Alors Jésus leur dit :
il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, effarées du fracas de la mer et des flots. Les humains défailleront de frayeur dans l'attente de ce qui vient sur l'humanité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez-vous. Et gardez vos têtes hautes, car elle est proche votre délivrance. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne soient accablés dans les excès et les abus, l'ivrognerie et les anxiétés, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme le filet d'un piège. Car il surviendra sur tous ceux qui sont assis sur toute la face de la terre. Veillez. En tout temps, priez, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et pour vous tenir debout en présence du Fils de l'homme. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Notre année liturgique s'ouvre sur une page d'Apocalypse. Pourquoi ? Que signifient ces images un peu terrifiantes ? Comment ces images de fin de monde peuvent-elles nous préparer à Noël ? Et quel message se trouve dans ce texte pour notre aujourd'hui ?
Eh bien, situons d'abord ce texte. Il est la conclusion d'une grande fresque apocalyptique, une fresque que l'on retrouve dans chacun des récits, ce qu'on appelle les récits synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. Et ces apocalypses ont été insérés dans le récit des derniers jours de Jésus, peu avant donc le récit de la Passion et de la mort.
Quel est le sens du mot apocalypse ?
C'est la transcription littérale d'un mot grec, apocalypsis, qui a pour sens révélé. Dans ces récits d'apocalypse, il s'agit donc de révéler le sens des événements actuels, ceux que nous vivons, et de les éclairer à la lumière du sens final de l'histoire. Dans la liturgie juive, on trouve souvent ce genre de récit, principalement dans les deux derniers siècles avant l'ère chrétienne. Les chrétiens, les premiers chrétiens, utiliseront aussi ce type d'écrit afin de comprendre le sens des persécutions qu'ils vivent. Mais attention, alors que les évangiles sont surtout formés de paroles de Jésus qui ont été d'abord transmises oralement, puis ensuite elles vont être mises par écrit, par contre ces passages d'Apocalypse sont des récits qui ont été rédigés. Ils sont nés en temps de crise pour redonner l'espérance au peuple. Malgré le mal qui règne et qui semble tout puissant, ces récits veulent assurer que Dieu promet la victoire finale du bien. Et pour cela, eh bien, ils emploient des images symboliques qui sont propres à ce genre littéraire que l'on appelle l'Apocalypse. Ici, le récit est lié à l'annonce faite par Jésus de la destruction du temple. Jésus en a déjà parlé lors de son entrée dans la ville, au jour des rameaux.
Quand Jésus s'approcha de la ville, il pleura sur elle. « Il viendra pour toi des jours où tes ennemis t'encercleront de retranchements. » feront le siège et te presseront de tous côtés. Ils t'écraseront, toi et tes enfants. ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. »
Alors il faut imaginer le choc que va produire cette destruction du sanctuaire. Elle se fera effectivement en l'an 70, à peu près 35 ans après la mort de Jésus. Et le temple est non seulement l'orgueil et la fierté des Juifs par sa beauté grandiose, mais il est surtout pour eux le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le sanctuaire est au cœur de la vie d'Israël. Il rappelle sans cesse qu'Israël est le peuple que Dieu s'est choisi pour qu'il soit sur cette terre son peuple. Israël, en effet, se considère comme un peuple à part qui n'est semblable à aucun autre dans cette longue histoire qui se joue entre Dieu et l'humanité. Le temple détruit, eh bien cela signifierait que Dieu a abandonné son peuple. Déjà, en 587, lors de la destruction du premier temple, les prophètes avaient interprété cet événement comme la rupture de l'alliance entre Dieu et les siens. Écoutons comment le prophète Michée avait décrit ce drame.
« Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de décombres. La montagne du Temple sera un haut lieu de broussailles. »
Le prophète Jérémie, lui, avait proclamé que la mauvaise conduite du peuple était la principale cause de cette destruction du Temple par les puissances ennemies.
« Vu que, moi Dieu, je vous ai parlé inlassablement sans que vous m'ayez écouté, la maison sur laquelle mon nom a été proclamé sera traitée comme j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de moi. »
Les premiers chrétiens, eux, vont voir dans cette destruction de Jérusalem en 70 la fin d'une alliance, celle de Dieu avec Israël, et son remplacement par l'alliance nouvelle avec la communauté des disciples de Jésus, l'Église. Cela va entraîner les chrétiens à nommer l'alliance avec Moïse l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, comme nous disons. Mais il vaudrait mieux parler de la première alliance, celle qui a été faite avec le peuple juif, et parler d'un renouvellement de l'alliance dans la personne de Jésus et son élargissement à tous les peuples. Ce renouvellement de l'alliance doit d'ailleurs être continuel, réactualisé sans cesse. Sinon, cette alliance risque de nouveau de se scléroser et de devenir morte. Et cet élargissement de l'alliance, eh bien, ce doit être le souci constant des disciples de Jésus s'ils veulent rester fidèles à ce que leur maître leur a demandé lors de son départ, comme un peu son testament.
Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Pour Jésus, c'est l'humanité tout entière que Dieu veut rassembler en sa communion. Mais ce règne de Dieu s'établit bien au-delà des frontières de la communauté des disciples de Jésus, au-delà des frontières de l'Église. C'est en tout être de bonne volonté que l'Esprit de Dieu agit et qu'il porte des fruits. Donc chaque personne, si elle vit de bonté généreuse, si elle accueille en elle l'amour, eh bien elle accueille l'amour qui vient du Père, car Dieu est la source de tout amour. Alors c'est donc en chaque peuple, en chaque race, en chaque croyance, que le chrétien est appelé à découvrir cette révélation de Dieu.
On portera la main sur vous et on vous persécutera. Vous serez haïs de tous à cause de moi.
Jésus élargit maintenant sa vision au-delà de la destruction du temple. Il veut donner sens aux persécutions que ses disciples devront affronter, de la même manière qu'il a donné sens à sa propre mort. Ailleurs, dans le récit de Jean, Jésus annonce à ses disciples les épreuves auxquelles ils seront confrontés afin qu'ils ne perdent pas courage.
« Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas par cette épreuve. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Oui, Jésus enverra à ses disciples l'Esprit de Dieu qui leur permettra de témoigner. Je vous donnerai, leur dit-il, un langage et une sagesse que ne pourront contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Et pour signifier cette victoire sur le mal, Jésus reprend une image du prophète Daniel, celle du Fils de l'homme qui vient dans la nuée avec puissance et grande gloire. Autrefois, il y a plusieurs siècles, le prophète Daniel avait décrit ce triomphe du peuple de Dieu après toutes les épreuves de son occupation par les puissances ennemies.
Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence. Et lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite.
Oui, Jésus a souvent repris cette image du Fils de l'homme pour exprimer cette certitude intérieure de sa victoire sur le mal. C'est d'ailleurs ainsi qu'il s'exprimera lors de sa comparution devant le grand prêtre. Désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu puissant. Et ici, cette victoire va être traduite dans un langage apocalyptique qui va utiliser des images cosmiques.
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre les nations seront dans l'angoisse, effarées du fracas de la mer et des flots. Les humains défailleront de frayeur dans l'attente de ce qui vient sur l'humanité, car les puissances des cieux seront ébranlées.
Dans ces bouleversements de l'univers, les disciples de Jésus doivent reconnaître que l'on assiste à une nouvelle création. Mais ce qui sera réalisé à la fin de ce temps, à la fin de l'histoire, est déjà commencé, tout au long de l'histoire humaine, avec tous ceux qui seront des êtres de bonne volonté, Dieu ne cessera de créer une humanité toujours nouvelle. Eh bien cela, en Jésus, qui est le Fils parfait du Père, cela, ce renouvellement est déjà accompli. Jésus a vaincu le mal en vivant toute son existence dans l'amour jusqu'au don total sur la croix.
Relevez-vous et gardez vos têtes hautes, car elle est proche votre délivrance.
Oui, cette nouvelle création est donc déjà commencée. On peut remarquer que ce n'est qu'ici, dans son évangile, que Luc emploie ce mot « délivrance », mais on le retrouve plusieurs fois dans les textes de l'apôtre Paul.
Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la délivrance, le pardon des fautes. Tous deviennent justes gratuitement par la grâce de Dieu, en vue, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus. En lui, nous avons la délivrance par son sang. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce.
Nous voyons ici que la délivrance est associée au pardon et à la grâce. Par l'amour divin de Jésus, amour qui a été jusqu'au don de sa vie, nous devenons des êtres libérés. Le pardon, c'est en effet le travail de guérison que l'amour de Jésus réalise en notre cœur. Lorsque le mal nous tient en son pouvoir, lorsque nous sommes dans les ténèbres, si nous accueillons l'amour gratuit que nous donne Jésus, eh bien cet amour va transformer notre cœur. Nous vivons alors par Jésus en communion profonde avec lui, comme le dit l'apôtre Paul.
Vous existez vraiment dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et délivrance.
Oui, voilà, dans le fond, l'essentiel de notre foi chrétienne. Il y a un être humain semblable à nous, un terrien comme nous, qui nous donne accès à la sagesse qui vient de Dieu. Et ce terrien, cet être humain semblable à nous, c'est Jésus.
Dieu nous a prodigué la richesse de son amour en nous ouvrant à toute sagesse et intelligence, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté.
En nous nourrissant de la pensée de Jésus, en gardant ses paroles dans notre mémoire profonde, en vivant selon son esprit, eh bien nous sommes en cheminement vers la vraie liberté. Jésus nous a dit que c'est la vérité qui rend libre.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste.
Le lecteur de la Bible est familier de cette image du voleur, celui qui vient toujours à l'improviste. À la suite de Jésus, Paul emploie encore cette image.
Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
On peut certes s'étonner un peu de cette image du voleur. Peut-être que Jésus l'a utilisé pour nous dire que la venue du Fils de l'homme se fait dans un monde qui sera toujours marqué par les ténèbres, puisque c'est souvent dans les ténèbres que viennent les voleurs. Mais cette victoire de Jésus sur le mal n'implique pas forcément que tous les humains seront en communion avec lui. Il semble bien que Jésus n'ait pas envisagé son retour dans un tel contexte. La parabole du jugement dernier laisse plutôt envisager comme possible qu'un certain nombre d'êtres humains aient refusé de vivre dans l'amour.
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. »
Si la venue du Fils de l'homme est toujours envisagée de nuit, n'est-ce pas aussi parce que le monde sera donc toujours le champ d'une lutte entre les ténèbres et la lumière? Oui, la justice comme la paix seront toujours menacées, toujours à reconquérir. Jamais on ne pourra s'asseoir en pensant que le règne de l'amour est enfin arrivé. Et cela est vrai des sociétés parce que c'est vrai de chaque personne. Jusqu'à la fin, la liberté des humains les placera devant le choix. Dieu et l'amour, ou bien la voie du mal. Jamais personne ne peut s'asseoir en se disant qu'il a atteint la sainteté et que désormais la bonté et la miséricorde dicteront tous ses actes. Le saint, ce n'est pas celui qui est arrivé et qui ne pêche plus. Le saint, c'est davantage celui qui est possédé par l'amour de Dieu et des autres. Et cet amour ne cessera de le rendre plus clairvoyant sur ses propres manques. Le saint est ainsi celui qui se reconnaît chaque jour davantage un pécheur.
Tenez-vous sur vos gardes de peur que votre cœur ne s'alourdisse.
La puissance du mal qui nous sollicite sans cesse est caractérisée ici par les excès et les abus, l'ivrognerie, les anxiétés. Cette description est sans doute inspirée par les images de la nuit où règne l'empire des ténèbres. C'est de nuit surtout que toutes ces choses se font. C'est de nuit, lorsque le sommeil nous fuit, que notre esprit est assailli par toutes sortes d'angoisses. On peut rapprocher cette description de celle de la parabole de la semence où la parole de Dieu est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs. Mais ici, Paul a peut-être inspiré Luc. Alors, lisons ce qui est dit dans la lettre aux Romains.
Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans ripaille ni beuverie, sans coucherie ni débauche, sans querelle ni jalousie.
Et on trouve des images semblables dans la première lettre aux Thessaloniciens.
Ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres et revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut.
Et Paul ajoute, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut par Jésus. Eh bien voilà où se trouve notre attente. Non pas la crainte du jugement divin, mais la joie de la liberté et de la liberté dans l'amour. Il nous faut sans cesse nous redire ce destin qui est le nôtre, ce que Dieu rêve pour nous, que nous devenions ses fils et ses filles, que nous soyons éternisés par son amour. Rappelons-nous la forte pensée d'Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'être humain vivant. Mais cette vie que Dieu nous offre ne peut se faire que par la vision de Dieu. Et nous ne parvenons à cette vision de l'invisible de Dieu que par notre communion constante avec Jésus. Oui, à travers la lecture priante de sa parole dans l'Évangile, nous pouvons être en vraie communion avec lui. Mais il nous faudra cependant toujours être vigilants, toujours veiller à la qualité de notre amitié avec celui certes que nous pouvons appeler notre ami, notre frère bien-aimé. Toute relation d'amitié ou d'amour doit être ravivée sans cesse, et bien c'est la même chose pour le Christ. Sinon, cette amitié risque fort de s'étioler et de perdre vie. On est responsable de sa rose, disait le renard au petit prince. Et pourtant, on considère bien vite que l'amour de celui ou de celle qui nous aime est une chose acquise. Alors cet amour n'est plus ce merveilleux cadeau que l'on s'étonne sans cesse de recevoir, ce don qui nous est fait gratuitement et qui ne peut jamais être quelque chose que l'on peut vraiment mériter. Eh bien voilà où se trouve vraiment notre attente. Malgré un monde marqué par le mal, nous pouvons vivre de l'Esprit de Dieu qui est amour. Il faut pour cela veiller avec un zèle jaloux sur nos liens de communion avec Jésus, mais aussi veiller sur nos liens fraternels. Dans la lettre aux Thessaloniciens, Paul décrit ce que doit être notre vigilance.
Réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours dans la joie, rendez grâce en toutes circonstances.
De tels conseils ne sont-ils pas tout imprégnés de tendresse et de bonté? Et ce ne sera que par la communion avec Jésus que nous pourrons espérer vivre de telles relations de fraternité.
Restez éveillés et priez.
Je dors, mais mon cœur veille, dit l'amante du Cantique des Cantiques. Veiller, c'est donc être dans l'attente ardente de cette vie d'amour, de bonté et de paix qui nous est promise par Dieu. Oh, il n'est pas toujours facile de garder l'espérance à certains moments de l'existence. Quand la mort s'abat sur ceux qui nous sont chers, quand le mal vient briser nos liens d'affection les plus forts, quand il semble qu'il n'y a plus rien à espérer, alors la tentation est grande de désespérer même de Dieu. La prière que Jésus nous fait dire chaque jour demande au Père de ne pas être abandonné quand vient la tentation. Et dans ces mots de tentation, il ne s'agit pas là d'abord de nos tentations de mal faire, mais surtout de notre tentation de ne plus rien attendre de Dieu, de ne plus croire que l'amour est plus fort que tout, plus fort que notre péché, plus fort que la mort. Mais attendre, cela ne signifie pas de ne rien faire. Être en attente vis-à-vis de Dieu, c'est au contraire creuser en nous l'espace où Dieu pourra agir. Rappelons cette réflexion de Gabriel Marcel que nous pouvons appliquer à notre relation avec Dieu.
Aimer un être, c'est attendre de lui. C'est en même temps lui donner le moyen de répondre à cette attente. Si paradoxal que cela puisse paraître, attendre, c'est en quelque façon donner. Mais l'inverse n'est pas moins vrai. Ne plus attendre, c'est contribuer à frapper de stérilité l'être dont on n'attend plus rien. C'est en quelque manière lui retirer la possibilité d'inventer, de créer. Tout permet de penser qu'on ne peut parler d'espérance que là où existe cette interaction entre celui qui donne et celui qui reçoit, cette commutation qui est la marque de toute vie spirituelle.
Prier, ce sera donc se tenir disponible devant Dieu, se placer sous son regard, exposer notre esprit à la lumière de son esprit. Permettre à cet esprit divin d'insuffler en nous l'intelligence divine des choses et des événements, afin de ne pas tomber dans la tentation d'un regard plein de pessimisme et de désespérance sur notre vie et sur la vie du monde. Terminons par ce texte extrait d'une conférence du frère Émile de Thésée.
À quoi bon ? Cette question hante et fait trébucher une partie de la jeunesse dans cet tâtonnement si exposé au découragement. La désillusion est certaine. Les sociétés paraissent soumises à d'invincibles forces d'égoïsme. Comment croire qu'il puisse exister un rapport entre mes faibles forces et les engrenages qui sont à l'œuvre? Le sentiment d'impuissance qui naît de cette dérision passe pour la seule forme de lucidité et de réalisme. Mais Dieu fait du neuf. Il nous faut déchiffrer les signes de résurrection dans les apparences contraires de la mort. Quand on voit tout ce qui se fait et qu'on ne savait même pas que cela existait, alors on se dit que ce n'est peut-être pas fini et on est d'accord pour relever des manches.
Se tenir debout devant le Fils de l'homme, voilà la source de notre espérance. Parce qu'en cet homme, Jésus de Nazareth, Dieu a trouvé un cœur qui a été fidèle à l'amour. Fidèle à l'amour jusqu'au bout du pardon, jusqu'à livrer sa vie. C'est en lui, lui que le Père a ressuscité, que ses disciples peuvent venir puiser la force d'aimer. Il est le Fils de l'homme, venu sur cette planète il y a 2000 Noëls, pour nous guérir de la désespérance. Voilà le souffle de vie que doit nous redonner notre avant. Un souffle qui ne peut nous habiter que s'il nous traverse et qu'il va ainsi rejoindre nos compagnons et compagnes de vie.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture. Vous signalons aussi qu'un parcours biblique commencera à la paroisse de Le Gardeur à partir du mois de janvier. Ce sera tous les mardis soirs à 18h à cette paroisse. Téléphonez-nous, nous vous donnerons des renseignements plus précis.